11h, 12h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Elle est persuadée que si on protégeait un peu plus les animaux et un peu moins les chasseurs, il y aurait moins de morts à vélo, l'utopiste cyclable Christine Mérou.
Bonjour, bonjour à tous.
On pense qu'il a une angine depuis 20 ans, mais en fait, c'est juste sa voix normale, le baryton des ondes. Mickaël, qui regarde.
Bonjour, bienvenue.
Son ex le surnomme la particule fine parce qu'on ne le sent pas arriver, invisible. Et après, il nous empêche de respirer, l'étouffant Ben H.
No comment. Bonjour à tous.
Bien présenté.
Ouais.
Lui aussi, il s'est brillé lors de remises de prix. Ce week-end, il a reçu le jogging d'or du meilleur supporter de rugby devant la télé, Jean-Philippe Pizzini.
J'y connais rien en plus au rugby. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Et contrairement à l'équipe de France de rugby, personne n'oserait la plaquer juste avant la Saint-Valentin. Celle qui n'a jamais peur de se défendre dans la mêlée, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Pizzini nous racontera qu'il s'apprête à gagner à l'Euro Million. Enfin, c'est ce qu'il
croit. Oui, c'est ce soir.
À 11h30, nous recevons l'humoriste Shirley Soignon, actuellement en tournée avec son spectacle Monsieur Shirley. Mickaël Quiroga se demandera si l'on peut encore rire de tout. Et à partir de 11h50, Denise Bombardier sera notre invitée pour son livre Une vie sans peur et sans regret, qui vient de paraître aux éditions Plon. Ben H reviendra sur sa carrière de journaliste franco-québécoise. Ouais. Et Christine Mérou lui fera une interview Paris-Montréal.
Tout à fait.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
L'équipe de France de rugby a essuyé dimanche sa plus grosse défaite contre l'Angleterre depuis plus d'un siècle. Selon vous, dans quel domaine les Français battent à coup sûr les Anglais ?
Dans quel domaine ? Ben moi, je pense que pour les soirées coquines, on est meilleur que les Anglais.
Ah bon, pourquoi ?
Ben parce qu'à chaque fois que ma femme me dit que les Anglais ont débarqué, la soirée est foutue.
C'est élégant. Mais n'applaudissez pas à ça.
Je dis bravo.
Mais n'applaudissez pas à ça.
C'est brillant.
Non,
je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
En Algérie, le président Bouteflika est officiellement candidat à 81 ans. Pris de jalousie, les Égyptiens ont décidé de déterrer Toutankhamon.
En Algérie, le président Bouteflika est officiellement candidat à 81 ans. Valérie Giscard d'Estaing prend ça comme un encouragement pour 2022.
Le Louvre Abu Dhabi va accueillir des tableaux de maîtres néerlandais. Attendez, il ferait pas mieux de s'acheter des vêtements ? Ben oui, ils sont à Abu Dhabi.
Je l'applaudis.
Non, mais
si,
non.
Mais si, mais si.
C'est brillant.
Mais si, autant d'efforts, ça s'applaudit. Quoi.
Ah, c'est du génie.
Ouais. C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain opposé ce soir à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un match marqué par la poisse et les pépins physiques côté parisien. C'est ça le sport à la française. Hein. On perd ou on gagne, mais si on perd, on a déjà l'excuse.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Pizzini et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner 500 euros de produits de beauté Clarins en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Pizzini.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien, Mickaël ?
Bah, ça va un petit peu mieux, j'ai récupéré un bout de ma voix. Voilà, quoi, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a.
Mais vous avez une pharyngite encore ?
Non, non, c'était un début d'angine, je crois. Et puis,
Mais c'est contagieux, votre truc, là, parce que...
Non.
Ça fait trois jours qu'il nous fait la bise, donc...
Et vous vous soignez, quand même ?
Ouais, avec des trucs de sorcière, là, de l'eucalyptus, des huiles essentielles...
Ah oui, ça marche bien, ça.
Non, mais ça a fonctionné, en tout cas.
Faut mettre du sucre dans de l'eau et tu te le verses sur la tête, ça marche bien aussi.
Oui, mais il paraît qu'il faut traverser une rivière à la pleine lune en même temps.
Non, mais ça dure quand même depuis au moins une semaine, cette petite maladie.
L'eucalyptus aussi.
Parce qu'en fait, je l'avais perdu, puis je suis allé à une soirée après et j'aurais pas dû. Il y avait beaucoup de musique et j'ai voulu faire le mec qui parle fort et tout, et puis j'aurais pas dû.
Bah c'est connu
samedi,
la musique.
Samedi, vous
pour
êtes sorti, samedi.
Voilà, et alors après, j'étais obligé de fermer ma gueule, hein, comme on dit, pour reposer la voix et puis les oreilles des autres aussi.
Ah, et c'était bien cette soirée ?
Ouais, non, c'était bien, c'était l'anniversaire d'un pote. Il y avait du bon son, des bons DJ.
Il y avait des filles Vous avez rencontré des filles?
Il y avait du bon son, des bons DJ.
Ah non, avec sa voix. Ah, ça va, je m'appelle Mickaël.
Ah non, là, c'était pas la peine. Hein.
C'est vrai?
Ah ouais, non, ça aurait été une horreur. Et puis, je vais pas en soirée pour draguer, excusez-moi.
Ah bon?
Non, moi, je.
Oui, je vais draguer chez Carglass, tu vois. chacun son truc.
Voilà, on fait ce qu'on peut. En plus, comme ça, j'ai les essuie-glaces gratuits.
C'est des boches.
C'est le moment de notre jeu. Anne Romanoff. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Alors comme la nouvelle saison de The Voice a commencé samedi, vous devrez deviner donc des personnalités de l'émission, coach, candidat, présentateur. Grâce à Europe 1, hein, fêtez la Saint-Valentin en beauté avec 500 euros de cadeaux Clarins, des soins câlins, un maquillage glamour pour séduire son Valentin, l'iconique double sérum, un beau rouge mat et le duo de bain relax et tonique aux huiles essentielles. On joue d'abord avec Kevin. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Bah, Kevin, vous avez 35 ans, vous êtes pizzaïolo à Lorient, en Bretagne.
C'est bien ça.
Voilà, et vous êtes qualifié pour la finale des championnats de France de la pizza.
Exactement.
Ça consiste en quoi?
Faire des pizzas.
Donc, ça consiste à proposer une pizza à un jury de professionnels, souvent des anciens champions du monde ou champions de France ou des formateurs en pizza. Et du coup, on a un temps imparti pour réaliser la pizza de notre choix.
Et c'est quand ça?
Donc la finale, ce sera le 1er et 2 avril à Paris.
Vu que là, on a quand même un professionnel de la pizza, est-ce qu'on peut officiellement, je parle sous votre contrôle, est-ce qu'on peut officiellement dire que la pizza ananas n'est pas une pizza?
Alors, nous, on la propose.
Oh mon Dieu.
Mais ça reste le conflit permanent entre les pro-ananas et les anti-ananas sur la pizza.
Ça existe, il y a des pro-ananas et des anti-ananas.
C'est un vrai débat. Il y a un vrai clivage. Ouais.
Moi, du temps où je mangeais des pizzas, j'aimais bien la pizza.
Du temps où
je
mangeais.
La semaine dernière.
Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre.
Le week-end dernier.
Non.
Quand je mangeais encore du chocolat, jadis, au temps lointain.
Non, je n'ai pas mangé de pizza. D'abord, j'essaie de manger sans gluten et ça fait un peu grossir les pizzas quand même, Kevin.
Bah oui.
Ça dépend. Après, tout dépend de ce qu'on met dessus. On peut faire des pizzas plutôt light ou avec très peu de fromage.
Des pizzas light, comment light? Light de quoi?
Pizza vegan, sans fromage, avec que des légumes.
Ah bah,
c'est ce que
y a
je
pas
pense.
De fromage, c'est pas
Ça s'appelle une biscotte.
C'est une jardinière, quoi.
Elle prend deux feuilles, elle met une feuille au milieu, elle appelle ça un croque-monsieur.
On vous en demande quelquefois des pizzas vegan, Kevin?
On nous en a déjà demandé, mais nous, on n'en propose pas. Mais après, s'il faut faire une pizza sans fromage, il n'y a aucun problème.
Je suis la bienvenue chez vous.
Oui, bien sûr.
Elle s'appelle comment, votre pizzeria à Lorient, Kevin?
Elle s'appelle Dita Van Pizza.
Le jeu de mots, toujours dans les...
Créatif, hein.
Et vous êtes le patron?
C'est mon épouse la patronne et on travaille ensemble juste tous les deux.
D'accord, donc vous couchez avec la patronne.
Non, mais c'est son épouse.
Et
déjà.
En plus, il la connaît depuis l'âge de 10 ans, c'est vrai?
Oui, ouais. Exactement.
Vous avez eu un coup de foudre à l'école primaire?
On n'était pas dans la même école, mais on s'est croisés quand il y a eu des rassemblements d'école. Après, on s'est retrouvés dans le même collège et puis on a fait une partie de notre vie chacun de son côté et on s'est retrouvés... Il y a un petit peu plus de 10 ans sur les réseaux sociaux et depuis ça fera 10 ans, fin de semaine prochaine, où on est ensemble.
Ah,
bravo, j'adore.
Mais vous étiez sortis ensemble à quel âge la première fois?
On avait fait juste qu'être amis au départ, tout en se croisant fréquemment.
Ah, mais pas de petits bisous, rien du tout?
Non.
Et vous avez craqué pour elle à l'époque ou pas?
Oui.
Et elle ne voulait pas de vous?
Si, elle aussi, plus que moi d'ailleurs, je crois.
Ouais.
Mais vous ne l'êtes jamais dit? Enfin, non. Pas à ce moment-là. Waouh.
Pas à ce moment-là, non.
J'en ai loupé tellement à cause de ça aussi. C'est que tu t'es pudique, tu veux pas te... Et puis, ouais.
Ouais, puis quand tu me dis qu'on veut pas de toi, c'est génial aussi. Mmh.
Ah, ça m'est pas arrivé personnellement. Il y a une anecdote, Anne?
Pas du tout.
On n'est pas là pour ressasser votre passé.
Bon, Kevin.
Oui.
Vous jouez avec qui?
Je vais jouer avec Mickaël Quiroga.
Waouh.
Tant pis.
Et alors, c'est des candidats ou des candidats, des jurés, des gagnants de The Voice. Vous êtes prêts?
Je suis prêt.
Attention, top chrono.
Alors, c'est un présentateur du dimanche soir sur TF1. Il a un nom grec.
Nikos.
Ok, c'est l'un des membres du groupe Téléphone.
Louis Bertignac.
Ouais. Il chante avec une voix de chèvre un peu. C'est un chanteur à l'ancienne. Un chanteur français chauve qui a beaucoup de succès, qui joue du piano. Voilà. Un chanteur qui a gagné The Voice ou la Starac, je sais plus, un gitan.
Kenji Girac.
Ouais, elle chante Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme un star de cinéma.
Oui. Lara Fabian.
Ouais, un chanteur qu'on appelait la Tortue avec un nom alsacien.
Ah, ça y est, c'est fini.
Il y a eu un jingle il y a une vingtaine de minutes.
Ouais. C'est pas mal.
On embrasse Julien Clerc.
Ah, hein, ouais.
Dis la chèvre.
Une voix de chèvre. Non, mais je savais pas.
Non, parce que je connais peu ces chansons. Je m'excuse.
Oui, écoute, 40 ans de métier.
Je m'excuse auprès de Julien Clerc. Vraiment.
Ouais, tu t'excuses.
Non, non, c'est un grand chanteur. C'est un grand chanteur. C'est un grand chanteur.
Quand t'auras 40. Quand t'auras 40 ans de métier, on en reparlera.
Il a dit Christophe Willem.
Non, mais le plus gênant, c'est qu'il a deviné. Quand il a dit quelqu'un qui chante comme une chèvre, il a deviné quand même. C'est ça qui est gênant.
Si, bonne réponse. Et Christophe Willem, le dernier que vous avez trouvé 10 minutes après le gong, oui. Donc ça compte pas.
Bravo quand même, mon ami, bravo.
Si bonne réponse. C'est pas mal du tout, Kevin. On joue c'est maintenant avec Sarah. Bonjour, Sarah.
Oui, bonjour, Anne Romanoff.
Bonjour.
Bonjour, Sarah.
Bonjour. Vous habitez à côté d'Orléans et vous êtes animatrice commerciale, c'est-à-dire vous faites quoi?
Bah écoutez, je vends des... Ça peut être... des robots électroménagers, ça peut être, je sais pas...
dans les supermarchés, quoi.
La viennoiserie, ça peut
d'accord,
être...
Ah, vous faites un peu tout.
Voilà, je cuisine sur place quand
d'accord.
C'est comme ça.
D'accord. Montrez-nous comment vous faites pour vendre un robot électroménager.
Ah bah, écoutez, déjà, je cuisine sur place, je donne quelques recettes, je fais voir...
non mais comment vous parlez, vous dites robot. Mesdames, messieurs, approchez, comment vous faites?
Vendez-lui un robot qu'on en finisse.
Mais écoutez, le robot compagnon, il est extra. Ça veut dire que vous
le
faites
compagnon,
de l'entrée
il fait quoi, le
jusqu'au
compagnon
dessert. Mmh. Donc vous êtes tranquille, vous le programmez et vous êtes tranquille. Après vous pouvez aller faire votre coït, aller prendre un bain.
j'ai mal
attendez,
entendu.
Vous avez dit votre coït. Voilà. Vous dites ça aux gens sur les marchés?
Non, c'est pas sur les marchés, c'est dans les magasins.
Mais vous
hein.
Dites non, mais ça? Vous dites ça pour convaincre les gens d'acheter le robot?
C'est vendeur.
Non, pas de coït quand même.
Bon, en tout voilà. Cas, Sarah, c'est voilà. Bien, vous êtes une bonne vendeuse. Vous allez jouer avec qui maintenant?
Bah écoutez, Jean-Philippe Vizini.
Ah. Oh là là.
Il est dur le deuxième.
Il y a 6 bonnes réponses à trouver, 7 bonnes réponses, alors c'est pas évident. Attention, vous êtes prête? Oui. Allez, top chrono.
C'est une fille, elle est jurée de la Starac. Elle est d'origine corse. Elle s'appelle...
Jennifer.
Ouais. Lui, c'est un chanteur. Il vit en Patagonie avec sa femme. Il s'appelle...
Laurent Bally.
Ouais. Elle, c'est une animatrice aux côtés de Nikos. Elle s'appelle...
Oh là là, j'ai plus le temps. Oh
ok.
Là,
un rappeur marseillais qui est dans le jury, c'est...
Rappeur non, j'ai pas...
Un jury, il vient du Liban. Il est grand...
Nikos, non, c'est ça, il est grec.
Un juré qui vient du Québec. Il a une grosse voix. Jamais resté seul.
Qu'est-ce que
Jean-Luc Plamondon.
Oh mon Dieu. Sarah, c'était le stress. Deux bonnes réponses. Karine Ferry, qui est co-animatrice avec Nico Saliagas. Soprano, qui est rappeur qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission. Mika et Garou.
On était bien partis.
Jean-Luc Plamondon, non?
Bah, Garou, Jean-Luc Plamondon, on n'est pas loin.
Oui,
ça partait bien pourtant.
Bon, on va dire que c'est l'émotion, Sarah. Hein?
C'est dommage.
On était bien partis. Hein.
Bon, bah, vous, écoutez, comme vous êtes sympathique, vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois, d'accord?
Ok, on va réessayer.
Elle est bonne perdante, hein, franchement, j'adore.
Bonne journée à vous tous. Et c'est vraiment une bonne équipe. Vraiment, ça donne le. La pêche, c'est ça que je voulais vous dire, et continuez comme ça.
Bon, bah merci Sarah.
Merci beaucoup, gros bisous.
On vous embrasse.
Gros bisous.
Dans un mois.
Oui, notez la date.
Alors, Kevin.
Oui.
Vous avez gagné.
Super.
Fêtez la Saint-Valentin en beauté avec 500 euros de cadeaux Clarins, des soins câlins et un maquillage glamour pour séduire son Valentin ou sa Valentine. L'iconique double sérum, un beau rouge mat et le duo de bain relax et tonique aux huiles essentielles. Elle va être contente, votre chérie, là.
Elle va être super contente, ouais.
Du coup, vous allez lui offrir un cadeau en plus ou vous allez lui donner que ça?
Bah, il y a déjà pour 500 euros,
non,
ça va. Il y a
quand même quelque chose en plus.
Ah, oh, il est gentil.
Vous allez lui offrir quoi en plus?
Une pizza 4 fromages.
Vous savez pas encore?
Non, je ne sais pas encore.
Bah, il serait temps de
vous.
Bah oui, mais c'est bientôt là. Hein.
Oui, bah, 3 jours, ça laisse le temps de voir venir encore.
Ah, mais...
Trouste réponse de mec.
D'abord,
c'est vraiment une réponse de mec parce qu'il reste que 2 jours en fait.
Oui, parce qu'on est le 12 février, donc il reste que 2 jours. Hein.
C'est pas faux.
Ouais.
Mais il reste toute la journée d'aujourd'hui.
Bah oui, mais là, si vous faites des pizzas aujourd'hui.
Ouais, bah, on s'arrangera.
Vous arrangerez? Vous lui offrirez une pizza en forme de cœur.
Voilà. Oh. Une calzone.
Une pizza en forme de cœur. Ça m'a toujours fait rire parce que si vous la retournez, ça fait une forme de fesse, le truc.
Il a trop l'esprit mal placé. Ah, ouais.
Kevin, est-ce qu'on peut avoir un cri de joie?
Ouais.
Oh là. Ah, il est sec.
On n'a pas bien entendu, Kevin.
Yes.
Ah, ouais. Voilà. Bon, vous embrasse, Kevin. Passez une bonne Saint-Valentin.
Bon bisous, Kevin.
Bravo.
Et bonne chute. Oui. Ah, il veut passer un petit message. Il veut passer un petit message. Alors, attendez.
Je voudrais embrasser ma femme et mes enfants que j'aime et faire un petit coucou à Jeff et Christophe, des amis qui sont des gros gros fans de vous et qui vous ont vu en spectacle il n'y a pas très longtemps à côté de Lorient.
Très bien, et ben je vous remercie beaucoup Kevin.
Elle adore ça, elle adore ça.
Bonne chance pour la finale des championnats de France de pizza. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Mickaël Quiroga, Christine Delas,
tout de suite,
et Jean-Philippe Bizini qui s'apprête à gagner à l'Euromillion.
Je vais gagner.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous. Sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Bizini. Jean-Philippe Bizini. Oh, il a tout. Non mais...
Il les a achetés, les
non, mais
inviteurs.
C'est pas possible, vous avez fait quelque chose de public, Jean-Philippe.
Mais il m'aime bien, il m'aime
ce
bien.
Ce soir, il y a 150 millions d'euros à gagner à l'Euromillion. Vous pensez que vous allez gagner?
Ouais, je vais gagner, j'en suis sûr. C'est mon tour, ça y est, ça fait 10 ans que je joue à l'Euromillion, les mêmes numéros chaque semaine, et j'ai jamais gagné. Là, je le sens, je serai 150 millions. Ah, vous pouvez déjà mettre une annonce pour recruter un nouveau chroniqueur. Ce soir, les 150 millions sont pour moi. Ah, par contre, si c'est pas moi, j'espère qu'ils vont pas faire gagner un mec qui mérite pas. Hein. Ah non, mais souvent, l'autre fois, je regarde la télé, il y avait les résultats. Le mec, il gagne 100 millions d'euros. Le journaliste, tu lui demandes qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent. Le gars, il a répondu oh, bah, je vais continuer à vivre comme avant. Ah, mais il fallait pas jouer à ce moment-là. Pourquoi il a joué, lui? Moi, je pense qu'il faut lui retirer l'argent. Il mérite pas, lui. Non, mais c'est vrai, vous savez que si tu gagnes à l'Euromillion, la Française des Jeux te met en relation avec un psychologue. Pour ceux qui ont gagné, voilà, ils ont un psychologue. Et ceux qui ont perdu? C'est à ceux qui ont perdu qu'il faut donner le psychologue. L'autre, il a gagné 100 millions, il n'a pas besoin, il va bien. C'est pour nous. Et puis à chaque fois, ce qui m'énerve, ça, c'est quand il nous explique ce qu'il va pouvoir s'acheter avec cet argent. Vous l'avez vu, ça, à la télé. À chaque fois, il explique, il dit, bah, il a gagné 100 millions d'euros, vous rendez compte, avec ça, il va pouvoir s'acheter 20 000 Twingo. Ah ben, super. Là aussi, le journaliste, il faut lui mettre un psychologue, hein. Ou alors, sinon, avec 100 millions d'euros, vous pouvez vous acheter un Airbus. Ouais. Et tu le garou dans la rue? Ben non, il y a déjà 20 000 Twingo qui sont garés. Non, mais ils sont débiles. Alors, il nous explique aussi, si vous avez 100 millions d'euros, vous pouvez vous acheter 130 villas à Deauville. Ouais, super. Mais le problème, c'est qu'après, avec ma femme, on n'aura plus le temps de se voir. Avec 130 villas, elle sera beaucoup trop occupée par le ménage. Ça va. Moi aussi, je fais le ménage, je suis pas un gros macho. Hein. Deux fois par semaine, je passe l'aspirateur pendant 4 heures. Et après ça, je peux vous dire que la bagnole, elle est nickel. Alors, ce soir, je vais jouer ma grille comme d'habitude. Mais j'aimerais profiter de votre présence pour faire aussi une grille avec vos numéros à vous. Allez-y, rapidement, donnez-moi des numéros. 25, oui.
7,
voilà la longueur de ton zizi.
69,
c'est jusqu'à 50. Voilà.
Le 11,
super. Voilà, je note ça. Je vous promets, je vais jouer cette grille. Et si c'est ces numéros qui sortent, je vous donne tout.
Wow. C'est généreux.
Tout, ma femme, mes gosses et ma belle-mère. Voilà.
Anne Romanoff sur Europe 1.
On n'est plus qu'à 2 jours de la Saint-Valentin.
Ah, ben, ah bon?
Oui.
Ah mince.
Voici des phrases qu'on entend à 2 jours de la Saint-Valentin.
La phrase qu'on entend très souvent chez les mecs à 2 jours de la Saint-Valentin, c'est « Tu disais la Saint-Valentin? Oui, c'est dans 2 jours. Ah! Oh putain, 2 jours! J'avais complètement oublié. J'ai pas de cadeau, j'ai pas de resto, j'ai pas les fleurs, j'ai pas le choix. Je divorce.
On est là, Saint-Valentin, mais pas de problème, je gère. Tout est sous contrôle. J'ai le cadeau, j'ai trouvé un petit resto romantique. J'ai commandé un magnifique bouquet de roses rouges. Je suis prêt. Mais je suis seul.
Plus
que 2 jours. Oui.
Christine, Christine, tu t'entraînes pour le marathon?
Je m'entraîne pour la Saint-Valentin. Oui, faut pas que je sois au top de ma forme. La seule fois dans l'année où je vais faire l'amour un jeudi. 2 fois dans la même semaine. Je sais pas si je vais y arriver. Et je, surtout, je sais pas si lui, il va y arriver. Acteur studio.
On dirait du vécu.
Non, t'as un rugissement très...
Ça, c'est les frites de la cantine.
Elle pense aux frites et tout de suite, ça la met... Ah oh, bah dis donc, n'est-ce pas?
Bon, bah moi, pour la Saint-Valentin, j'ai pas trouvé de Valentine. Par contre, j'ai une Sophie, une Stéphanie, une Aurélie et un Jean-Paul. J'ai pas encore décidé.
Le jour de la Saint-Valentin, si elle te tient la main...
Oui, tonton, c'est vivement la Sainte-Marguerite. Allez, arrête de boire maintenant.
Ah, elle arrête pas de me dire que la vie avec moi, c'est un enfer. Alors cette année, pour la Saint-Valentin, je vais lui faire plaisir.
Tu vas lui faire un beau cadeau?
Ouais, je la quitte.
Là, j'essaye de réserver une table, là, mais pour la Saint-Valentin, tout est déjà complet absolument partout.
Mais t'es célibataire, toi?
Ouais, bah pardon, ça m'empêche pas de bouffer. La Saint-Valentin, c'est dans 2 jours. Ça vaut plus le coup de me mettre à la muscu pour séduire quelqu'un, non?
Je veux pas te vexer, mais même en commençant maintenant, je sais pas si tu seras prêt pour la Saint-Valentin 2022.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Béroux, Ben H, Michel
Sirogard,
Jean-Philippe Vizinier, notre invité, l'humoriste Charlet Soignon, actuellement en tournée avec son spectacle Monsieur Charlet.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Avec Michel Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jean-Philippe Vizinier.
Quelle ambiance!
Ça, c'est la folie!
Oh, on les arrête plus! On les arrête plus!
Non, mais arrêtez! On peut se calmer là. Ma première invitée est une humoriste aussi à l'aise derrière un micro que devant une caméra ou sur les planches. Est une stand-up touche à tout, qui touche juste et qui pose simplement des questions compliquées comme comment être féministe et macho. Réponse dans son spectacle actuellement en tournée, Monsieur Charlet. Faites du bruit pour Charlet Soignon.
Ouais, j'ai bien vu vite. Bonjour, bonjour.
Bonjour Charlet Soignon.
Ça fait trop bizarre d'être là, Anne. Ça me fait trop bizarre parce que je suis pas payée pour être là. C'est la première fois.
Charlet Soignon, pour d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, a été chroniqueuse dans cette émission. Et depuis, ouais, elle a une carrière fulgurante.
Eh oui.
Alors, Charlet Soignon, vous avez 32 ans, vous êtes née à Clichy.
Oui, c'est vrai.
Et donc là, vous avez votre spectacle, Monsieur Charlet, votre troisième spectacle, qui est en tournée dans toute la France. Alors, pour vous donner les dates, 23 février à Nantes, 8 mars à Balma, 9 mars Valence d'Agen, 15-16 mars Lyon, Bordeaux, Risdem, Bourg-les-Valence, Marseille, le 29 mars.
Ouais, je suis contente.
Et alors, vous avez été sélectionnée par Netflix, racontez-moi.
Oui, Netflix m'a appelée au mois de juin dernier pour faire un spécial de 30 minutes dans un programme qui s'appelle Humoristes du Monde, où ils prennent des humoristes du monde entier, là où ils sont diffusés, et 4 humoristes par pays.
Alors, donc, c'est quoi les 4 Français, alors?
Alors, les 4, c'est quoi? C'est qui, surtout? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Donald Jacksman, c'est Tania Dutel et Jason Brokers.
D'accord.
Et moi-même.
Mmh. Voilà.
Et j'étais très fière, évidemment, de...
Puis la parité en plus.
La parité, c'est vraiment plaisir, ouais, complètement. Et d'être appelé par Netflix pour. On sait que quand on fait du stand-up, c'est quand même le saint Graal de faire Netflix et c'était un vrai honneur.
Ils vous ont
fait
un abonnement ou pas après?
Non. Mais c'est assez drôle parce qu'ils nous ont mis tellement bien quand on est arrivé, tu vois, la loge, les machins. Et il y avait une enceinte Bluetooth, je fais jamais ça, je cache pas, j'ai volé l'enceinte. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un cadeau pour moi. C'est de voler mon propre cadeau. Tellement on n'a pas l'habitude en France d'être accueilli comme ça.
Donc c'était à Montréal et vous avez dû faire 30 minutes de matériau nouveau, c'est ça? Ils vous ont demandé.
Voilà, 30 minutes exclusives en tout cas pour Netflix.
Ça, c'est hyper dur. Donc,
ouais, c'est très dur.
En combien de temps vous avez écrit?
On a un mois. On avait un mois. On n'a pas écrit en un mois. On a pris évidemment des textes qu'on avait dans Monsieur Charlet notamment.
Ah oui.
Et j'ai écrit 2 nouveaux
passages. Mais pourquoi exclusif alors? Parce qu'ils voulaient que ce soit que sur Netflix.
Voilà,
c'est ça.
Donc c'est à dire qu'en fait, ce que je joue sur scène, je pourrais pas le capter de nouveau. Avec Monsieur Charlet, il faut que je réécrive pour Monsieur Charlet maintenant.
Ah ouais. Mm-hmm. Et ça, c'est embêtant quand même.
Bah, c'est mon métier, donc ça va aller. Hein.
Et donc, vous avez dû écrire quand même 2 textes. Alors, quand est-ce qu'on va voir ça sur Netflix?
C'est déjà Netflix depuis le 1er janvier.
D'accord.
Et c'est agréable de voir des messages du monde entier, quoi.
Vous avez été téléchargé?
Bah non, les gens regardent vraiment sur Netflix. Hein.
Ouais, mais vous avez le nombre de personnes qui regardent?
Non, ils disent pas. Ils disent pas, malheureusement. Mais on reçoit tellement de messages que j'ai l'impression que beaucoup de gens regardent.
Ah ouais,
je reçois des messages d'Allemagne.
C'est en français, sous-titré en anglais alors?
C'est sous-titré dans toutes les langues.
D'accord.
Donc les gens l'ont en portugais, l'ont en espagnol, en italien, c'est génial.
Et vous recevez des messages sur votre page Facebook?
Ouais, mais de langues que je connais même pas, donc je sais même pas si c'est des compliments. Moi j'envoie des cœurs, merci.
Charlet Soignon, vous avez adopté un chien?
Oui, j'ai adopté un chien.
Qui est très mignon, qui a attaqué mon chat.
C'est bizarre d'avoir un chien parce que je parle de chien toute la journée et je m'y attendais pas. C'est vraiment le assis, pas bouger, couché. On dirait vraiment du mauvais Magic System toute la journée. Pas bouger, décalé. Donc ça, c'est ma nouvelle vie, ouais, avec un chien. C'est très bizarre. Je sais pas si vous avez déjà eu un chien, Anne.
Non.
C'est un chien, promener un chien, je pensais que c'était sympa. Et en fait, le chien tire toute la journée, tu sais, on laisse. Et je pensais pas parler à un chien dans ma vie comme ça. Un jour, je lui ai dit, eh, regarde-moi la vie de ma mère, je vais te niquer. Tu sais qui je suis. J'ai dit à un chien, tu sais qui je suis. D'accord, donc c'était très dur au début. Aujourd'hui, c'est très heureux d'avoir ce chien. Il équilibre ma vie. C'est mon fils.
Alors, Charles Sognon, vous avez participé aussi, vous avez monté les marches à Cannes avec. Ouais. Mon noir n'est pas mon métier. Racontez-nous cette histoire. Le c'est un livre, collectif de 16 actrices noires.
Ouais, le livre Noir n'est pas mon métier, c'est un livre pensé par Aïssa Maïga et qui fait un peu le bilan de la présence des acteurs noirs ou d'autres minorités finalement dans le cinéma français. Et on a eu la chance de monter les marches de Cannes effectivement pour faire la promotion du livre. Et c'était très bizarre de faire les marches de Cannes. On est habillé en balmain et tout.
Moi, je connaissais même pas balmain. Vous étiez habillé en balmain.
J'étais en balmain.
Avec des talons. Que c'était.
Non, quand même, j'ai gardé les baskets. Et
En balmain avec des baskets.
Ouais.
Mais quelles baskets?
Des baskets toutes noires. Tu vois, un truc un peu comme ça là. Ah, je suis pas assez souple.
Ouais, oh là là. Mal.
Mais donc c'était un costume très brillant. Tout ce que j'ai vu, c'est que ça brille. Et c'était cool de monter les marches, mais c'était très bizarre parce que c'est quand tu vas sur le tapis rouge, c'est là que tu vois la cote que t'as au cinéma parce que les photographes t'appellent ou pas. Et ben c'était ou pas pour moi. On était 16, ils appelaient que deux filles sur 16. C'était Sonia Roland, Aïssa Maïga. Et moi, je suis humoriste. Au bout d'un moment, je leur ai dit, moi c'est Charlet.
Hein. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga-Benache, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizine et notre invité Charlet Soignon, venu nous parler de son spectacle Monsieur Charlet, qu'on peut donc retrouver sur Netflix dans la série Humoriste du Monde.
Absolument.
Ma chère, ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga-Benache, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizine.
Ouais, bonjour.
Et notre invité Charlet Soignon, venu nous parler de son spectacle Monsieur Charlet. Sur Netflix ?
Oui.
Comment on fait pour vous trouver sur Netflix ? Racontez-nous.
Alors, sur Netflix, on tape Humoriste du Monde, on tape Épisode France et on voit ma tête. Wow. Et en fait, ça s'appelle, mon programme à moi s'appelle Déprogrammation. Je l'ai appelé Déprogrammation, ce passage.
Pourquoi ?
Parce que le but, c'est de déprogrammer les gens sur beaucoup de choses.
Ah, parce que vous pensez que les gens sont trop conditionnés ?
Oui, je pense qu'on l'est tous. Hein. Ouais. Moi-même, je me suis rendu compte que j'étais raciste, homophobe. J'en parle dans ce spectacle.
Vous êtes raciste, Charlie Soignon ?
Un petit peu.
Comment ça se traduit ?
Ça se traduit par le fait qu'on est, on est persuadé, par exemple, quand on va à Haïti, que tous les Noirs vont vous comprendre parce qu'on est tous Noirs ensemble. Et je fais, ah non, en fait, on n'est pas tous les mêmes Noirs. Je me rends compte que je suis homophobe parce qu'un jour, je dis, on parle de Cristiano Ronaldo, le joueur de foot, avec une copine. Et elle me dit, je crois qu'il est gay. Et j'ai dit, bah non, il joue trop bien au foot. Parce que quand même, homophobe. Voilà. Donc, ouais, je me rends compte qu'effectivement, il faut se déprogrammer. Se déconstruire. Pour...
Alors, vous avez été enfant comédien, Charlet Soignon. Vous avez commencé à être comédienne à 8
c'est
ans.
C'est bien, on commence à bigenrer déjà, enfant comédien, j'aime beaucoup.
Dans une publicité de Coupe d'Europe 96, oui. Dans un épisode de Navarro. Et puis, à 11 ans, vous apparaissez dans une série, Le Bonheur est un mensonge.
Avec Michel Aumont, ouais.
Ouais, c'était un bon souvenir.
C'était génial, c'était et puis c'était mais ouais, c'est là que j'ai compris que j'aimais la comédie, j'aimais être devant la caméra, même derrière, parce que je me rappelle quand j'avais 8 ans quand j'ai tourné Le Bonheur est un mensonge et il y avait une scène comme ça où ma mère dans le film est censée accoucher. Et ça me rendait dingue parce qu'elle transpirait pas du tout. Et donc dès qu'ils ont dit couper, j'ai dit au maquilleur, on peut lui mettre quelque chose sur le front. Et il m'avait dit, mais oui, absolument, c'est vrai. Et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Il me dit, ah putain, je fais partie du métier maintenant. Ok, c'est bon. Alors, allez, action.
Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Charlet Soignon.
Alors, Monsieur Charlet,
bonjour.
Madame Soignon, bonjour. ravi de vous voir. Hein. Franchement, je vous adore. Vous faites partie de ces humoristes qui osent dire les choses, hein, qui ne s'interdisent de rien. Et justement, Anne, rire de tout, c'est une question qui taraude toutes celles et ceux qui font rire ou ceux qui rient. Alors, est-ce qu'on peut rire des policiers, des politiques, des gilets jaunes, des handicapés ? Non, il faut que les gens comprennent que quand un humoriste fait une blague sur les gays, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est homophobe, mais au contraire, qu'il essaye de mettre en exergue la bêtise de l'homophobie. Mmh. Voilà, parce que pour l'humour, l'une des plus grosses sources d'inspiration, c'est la bêtise. Hein. C'est pour ça qu'il y aura toujours plus de vannes sur Donald Trump ou Eric Zemmour que sur Albert Einstein. Ce qui compte, c'est la manière de dire des choses aussi. Et c'est compliqué, c'est pas Shirley qui dira le contraire, la spécialiste du borderline. Plus délicat encore, tiens, est-ce qu'on peut rigoler des Corses ?
Non, a priori.
J'entends bien claquer des dents. non. Alors, je vous le dis sans détour, oui, on peut faire des blagues sur les Corses. Voilà, trois conditions à respecter toutefois. La première de ces conditions, c'est de ne pas être en Corse au moment où vous faites la vanne. La deuxième, c'est de ne pas être propriétaire en Corse au moment de la vanne. Et puis enfin, dernière condition, vous renoncez à tout jamais à retourner en Corse, que ce soit vous ou votre descendance pour les 13 prochaines générations. Car le Corse a deux choses en commun avec l'éléphant, le rythme et la mémoire infaillible. Moi, je commence même à me demander, est-ce qu'on peut rire, par exemple, d'Olivier Giroud, voyez, sans que la patronne intervienne, tel Mélenchon, défendant son statut d'intouchable, pour défendre l'avancante de l'équipe de France, alors qu'on sait tous que ce qu'elle défend, ce sont les abdos, les épaules et la belle gueule de Giroud. Pas le palmarès. Prenez exemple sur la bande d'Andrew Manov, voilà, on passe notre temps à se vanner les uns les autres, ça crée des liens, c'est vachement bien. Franchement, ça fait du bien. On peut même se moquer d'Andrew Manov, nous, tranquille. Si, on peut se moquer de ses... Son... Enfin bref, la patronne, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En tout cas, heureusement qu'il y en a qui prennent des risques comme Shirley, pardon, comme Monsieur Shirley. Certains disent que les humoristes sont comme des médecins qui posent un diagnostic amusé sur la société. Et moi, je sais que quand on se blessait, ma maman, elle me disait toujours, si ça pique, c'est que ça guérit. Bah, le rire, c'est pareil. Si ça pique, c'est que ça guérit. Alors merci Shirley de continuer à prendre des risques pour qu'on continue à rire et à guérir.
Merci beaucoup.
Shirley Soignon, vous dites... Ma plus grande fierté, c'est de me rendre compte, après 10 ans de basket et 10 ans de scène, que je m'écoute. C'est-à-dire, vous avez mis du temps à vous écouter.
Oui, je continue d'être au plus proche de moi. Oui, ça met du temps quand on est effectivement, qu'on représente dans la société quelque chose qui n'est pas forcément accepté de base. On sait très bien que le meilleur, c'est quand même d'être un homme blanc hétéro, quoi, pour que ça glisse. Et donc, comme je suis vraiment l'inverse, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ce que la société n'acceptait pas pour moi, quoi.
Vous dites que vous avez un souvenir horrible, Charles Soignon. C'est à 15 ans, vous avez joué dans un théâtre avec des jeunes de 15 ans à Argenteuil.
Oh là là, c'était terrible. C'était une des premières scènes après le Jamel Comedy Club, le gros phénomène où tout le monde voulait faire la troupe du Jamel Comedy Club. Donc je crois que t'étais là, Christine, non? C'était pas une scène à Argenteuil avec Nadia Rose?
Est-ce qu'il y avait des...
là, je...
Bon, en tout cas, c'était avec Boone et tout, c'était fou.
S'il y avait des frites à la cantine, elle était là.
À la fin du... Je vois tout le monde sortir du plateau en pleurant. En pleurant. Et
oui,
moi, je passais
là,
à la fin. Bon. Tu te rappelles? Et je passe à la fin et je me dis, c'est juste qu'ils sont nuls, moi je vais cartonner. Et j'arrive sur scène et ça se passe bien au début, quoi. Et j'ai été très visuelle à l'époque. Donc je fais une vanne où je dis, c'est impossible d'écouter une personne qui a une tête bizarre. C'est impossible d'écouter une personne qui a une tête comme ça. Mais je fais cette grimace et vraiment j'entends, ah, oh, c'est trop marrant, vas-y, refais-le. Et je me dis, oh, c'est bon, je les ai dans la poche, c'est parti, c'est le carton. Je dis, absolument, les enfants, je leur fais tout de suite. Et je refais la grimace et là j'entends, oh, mais qu'est-ce que c'est drôle, on se marre. Et je fais, oh, les bâtards, en fait, ils sont en train de se foutre de ma gueule en live. Et après, et quand tu commences à dire sur scène, est-ce un métier ce qu'on fait, d'accord? C'est terminé. Et je suis rentré dans les loges, pleurer avec les autres.
Et vous avez joué aux États-Unis, Charles Soignon?
J'ai joué aux États-Unis, pas encore, en Angleterre, pour le stand-up, j'ai joué en anglais.
Parce
déjà.
Que vous êtes bilingue, par contre, par rapport à certains.
Je le fus. Puis la weed est arrivée dans ma vie. J'ai tout oublié. Non, c'est vrai, en plus.
Non, mais vous êtes quand même. Vous avez un bon accent, quand même.
Ouais, j'ai l'accent. J'ai plus que l'accent maintenant. Je fais, mais attends, je fais one again. Non, mais c'est vrai que j'ai joué en anglais un petit peu et j'aimerais bien reprendre. Et Netflix m'a beaucoup fait de bien là-dessus parce que je reçois des messages donc, en anglais de plein de gens qui me disent, viens jouer en anglais, viens à Los Angeles.
Ah, oh, c'est vrai.
Viens à Londres. Et du coup, je
c'est
me
génial.
Prépare à y aller là. Ouais, ouais, je prépare à le faire. Et j'aimerais adorer jouer en espagnol aussi. Bon, voilà, pour le
kiff. Vous sauriez jouer en espagnol?
Je pense plus qu'en anglais d'ailleurs.
Ouais. Alors, dites en espagnol un truc.
Bah hola, j'ai envie de te dire hola, bella ciao.
C'est une bonne base pour le début.
Oui, 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 bosse quand même.
Là, t'as l'entrée.
Un poquito. Bosse l'espagnol.
Non, mais j'aime bien la musicalité de la langue pour faire du stand-up.
Eh ben merci, Charles Soignon,
de passer
nous voir.
Merci à vous, j'ai envie de vous dire.
On rappelle votre spectacle, Monsieur Charles, en tournée 23 février à Nantes, Mimar, Palma, Valence, Vagin, Lyon, Bordeaux. Bourg-les-Valence, Marseille et Netflix dans la série Humoriste du Monde. Le premier épisode, Charles Soignon. Ne bougez pas dans quelques instants. C'est Denise Bombardier qui sera notre invitée.
11h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Busini. Et aujourd'hui, nous recevons la plus française des Québécoises. Elle est journaliste, animatrice et romancière. Avec son énergie hors du commun, sa sincérité à toute épreuve. À 78 ans, elle fait aujourd'hui le bilan d'une vie hors du commun. Une vie qui aura ouvert les grandes portes aux autres générations de femmes de sa trempe. Elle vient nous parler de son livre Une vie sans peur et sans regret. Denise Bombardier est avec nous ce matin.
Ouais.
Bonjour Denise Bombardier.
Bonjour.
Vous m'avez fait sursauter, je pensais, quand vous avez dit mon âge, que vous parliez de quelqu'un d'autre. Oui. Bon, mais c'est incroyable. Écoutez, je suis spectatrice de moi-même et je ne le crois pas. Donc, c'est vous dire. Je ne sais pas. Enfin, évidemment, si vous lisez le livre, peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai cette énergie. Mais en même temps, c'est mystérieux.
Parce que vous avez l'air d'avoir 65 ans, grand maximum.
Même pas, même pas. Oui, puis je me suis pas fait charcuter et tout, là. Mais c'est, je sais pas. Non, c'est à la fois la génétique, puis en même temps, c'est une sorte de... Je sais pas.
Moi, quand on a dit 78 ans, j'ai regardé la porte, j'ai cru que quelqu'un d'autre allait venir.
C'est peut-être le froid au Québec, ça conserve.
Ah bah si ça conservait, on mourrait pas alors. Non, au contraire. Ou bien on est tous gelés et puis. Il y en a beaucoup qui ont été gelés chez nous, ça c'est vrai.
Denise Bombardier, vous dites qu'un bon intervieweur, c'est avant tout poser la première bonne question. Du coup, j'ai trac. Quelle question je suis censée vous poser pour commencer bien, selon vous? Peut-être je vais commencer par la deuxième question.
Non, parce qu'avec vous, vous n'avez même pas besoin de me poser de questions, je vais vous répondre.
Ah bon? Non, parce que déjà...
Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir. Quand on a fait l'émission ensemble, la dernière fois, c'était formidable. Mais ben c'est ça. C'est le rapport qu'on établit avec la personne qu'on interviewe. Parce que moi, j'ai interviewé toute ma vie, et surtout avant tout des politiciens, moi.
Ah oui, c'est ça. Vous êtes une professionnelle de l'interview.
On peut dire ça comme ça. Je sais qu'il y avait des ministres qui étaient nerveux.
Avant de vous rencontrer?
Oui.
Parce que vous n'avez pas froid aux yeux, vous posez
non, n'importe... Non, mais je vais vous raconter la meilleure. C'est un jeune ministre. Il venait d'être élu. Il rentre au maquillage, il me dit « Oh, Denise Bombardier, vous me faites peur. » je le trouvais charmant avant. Me suis dit « Oui, puis bien. » Il avait perdu tous ses charmes. Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous materne ?» En fait, c'est ça qu'il voulait. Il voulait me déstabiliser pour que je devienne comme maman et je sois très gentille avec lui. Vous voyez,
et ça n'a pas marché?
Non, ça n'a pas marché.
Vous êtes une sacrée personnalité, Denise Bombardier.
Je ne sais pas.
Si, vous avez beaucoup de caractère.
Oui, j'ai... En fait, j'ai une chose que beaucoup de gens cherchent à avoir, c'est que je suis une femme libre, pour vrai.
Quand vous dites libre, sur quel point?
Oh, quand même.
Je ne suis ni à vendre, ni à emprunter.
D'accord. C'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est ce soir, par exemple, vous êtes libre.
Il emprunte, mais il rend rapidement. Voilà, ouais.
Mais j'ai choisi le titre, une femme sans peur et sans regret. Et c'est vrai. C'est vrai. J'ai tellement eu peur dans mon enfance, peur de mon père qui voulait nous tuer.
Votre père était alcoolique et violent?
Non, il n'était pas violent, il ne nous a jamais battus, parce qu'on pense ça, on se dit, mon Dieu, il devait les battre ou agresser sexuellement, ce n'était pas ça. Mon père était un terroriste familial, je l'ai appelé dans le livre. Quand il entrait dans la maison, mais là je vous parle, j'ai 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça a duré jusqu'à ce que je parte de chez moi, il créait une telle tension dans la maison qu'on était tous sur nos... Plus que sur nos gardes, je veux dire.
Et ça n'a pas perturbé non plus votre rapport aux hommes, d'ailleurs, ce rapport
alors,
avec votre père.
Alors, ce qui est un autre des mystères de ma vie, c'est que je me disais... Parce que normalement, quand tu as une image pareille de père, tu te dis, les hommes sont tous des salauds. Hein? Ils sont tous des fous. Donc, quand mon père, c'est un fou.
Ce qui est faux.
Et moi, je me disais, tous les hommes sont mieux que mon père.
Donc, du coup, vous étiez attirée par
J'avais
tous
9
les
ans.
Hommes Vous étiez attirée par tous les hommes?
J'étais attirée... Mais je croyais qu'ils étaient tous mieux que lui. Et je n'ai pas été déçue parce que j'ai été... Au fond, si je me suis construite, il faut bien le dire, n'en déplaise aux féministes trop radicales, c'est parce que j'ai été aimée par des hommes, admirée par des hommes. J'ai été soutenue par des hommes et protégée par des hommes. Les hommes de ma vie, les hommes que j'ai aimés, évidemment.
Il y en a eu beaucoup?
On ne peut pas y en avoir beaucoup. J'en parle dans mon livre. J'ai eu des amours à tous les stages de ma vie. Je crois qu'on aime toujours les hommes qu'on a aimés. C'est-à-dire qu'on aime l'amour qu'on leur a porté à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on les aime encore. Mais il faut avoir une fidélité à ses propres émotions et aux émotions qui nous ont bouleversés. Comme ça.
Il y en a quand ils se comportent comme des salauds, non?
Oui, mais c'est eux qui sont des salauds, ce n'est pas nous. À ce moment-là. Hein, s'ils se comportent comme des salauds avec nous, c'est quand on les a aimés, on ne pensait pas ça. Donc cet amour-là, il faut le protéger parce que ça nous permet d'aimer pour continuer d'aimer.
Ça veut dire que ce que vous avez ressenti, ça reste beau.
Oui, en fait. C'est ça.
Et ça
c'est
sert ça. À rien, Anne, d'être dans la rancœur éternellement. Il faut tourner la page.
Et dans le ressentiment.
Allez, allez, on le rappelle. Anne, allez.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël qui regarde un âge, Christine Béroux, Jean-Philippe Zini et notre invité Denise Bombardier venu nous parler de son livre Une vie sans peur et sans regret qui vient de sortir aux éditions Plon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël qui regarde Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Bizini.
Yes, yes.
Alors nous sommes dans les amours de Denise Bombardier, venue nous parler de son livre.
Et il y a de quoi dire.
Une vie
vous êtes là pour une semaine au moins.
À ce point-là, est-ce que quand même les femmes fortes ne font pas peur aux hommes, Denise Bombardier?
Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Savez-vous, quand j'ai commencé à... Quand j'ai réussi à décrocher l'émission la plus importante de la télévision de Radio-Canada, c'était l'émission politique. Ouais. J'ai littéralement pris la place d'un homme. Il n'y avait jamais eu une femme avant. Alors on disait de mes confrères, ah lui, il interviewe, il a de la crédibilité, il a de la force. Hein, il est capable, il affronte, il a, comme on dit au Québec, il a planté le ministre. Ça veut dire qu'il l'a, il l'a vraiment poussé dans ses derniers retranchements. Et moi, on disait, elle est mal baisée. C'est pour ça qu'elle est agressive. Parce que quand c'est une femme, c'est fou. On s'adresse, on parle immédiatement de sa... De ses ovaires.
Hein, une fois, vous étiez dans un train avec un homme politique qui vous a vraiment vexé. Il vous a dit un truc.
Ben oui, il avait été ministre. Il m'a dit, Denise Bombardier, vous êtes beaucoup trop intelligente pour être séduisante. Moi, je ne lui ai pas dit qu'il n'était pas assez pour l'être. Ça, c'est sûr, je me suis retenue. Il était tellement... Mais il m'a dit ça, et il le croyait. Parce que c'est sûr qu'une femme intelligente, en plus qu'elle est mots, et surtout au Québec, où les gens ont un peu plus de... C'est pas comme ici, hein, les gens ont peur des gens qui contrôlent la parole. Ils contrôlent les mots. En particulier, c'est sûr que ça faisait peur. Mais ces hommes-là qui avaient peur de moi, je ne m'intéressais pas à eux. Ce qui était intéressant, c'est ceux qui m'ont aimé, parce qu'ils n'avaient pas peur de moi.
Puis il y a eu Bob aussi.
Bob, c'est Bob Moran.
Non, c'est votre premier slow.
Ah,
j'ai
oui.
lu cette anecdote, c'est rigolo. Aujourd'hui, oui. on n'est plus,
oui, oui, oui.
plus de slow.
Non.
Alors que vous,
mais pourquoi vous pensiez qu'on allait danser? C'était pas pour aller gigoter, c'était simplement pour se coller au garçon.
Oui, mais justement, ça vous a surpris quand il s'est collé, lui.
Ben lui, quand il s'est collé, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais senti de ma vie.
Ah, c'est le trousseau de clé.
Et il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque.
Non, et moi, j'étais paniquée. Et puis en plus, j'étais pas prête pour ça, quoi. Je savais pas qu'il jouait du baseball, mais que son, son bâton de baseball il l'avait pas sur l'épaule. Quoi. Ouais. Voilà.
Que vous étiez très ignorante, vous le racontez dans le livre, des choses sexuelles, Denise Bombardier.
Ben, écoutez, j'ai eu mes règles à 17 ans, donc j'étais même pas pubère, moi. Alors, donc,
surtout, on vous avait rien expliqué.
Oui, il y avait une petite fille qui m'avait expliqué, mais elle m'avait expliqué ça très vite. Mais,
qu'est-ce
non.
que vous avez dit?
Elle m'avait dit, est-ce que tu veux, je vais t'expliquer comment font les enfants, comment on fait les enfants. Et là, comment elle m'avait dit ça que
une petite graine dans le petit trou.
Non, non, c'était pas la petite graine, c'était plutôt une grosse graine. Tu sais, elle m'a énervée.
La mère de baseball.
Non, non, elle m'avait dit ça, il y a une petite graine qui se passe. Non, non, c'était pas ça.
Elle,
c'était
elle
plus
vous a fait peur aussi,
ça.
Elle vous a dit que quand on accouchait, on perdait les os et vous avez compris que c'était les os.
Oui, ça j'ai compris, vraiment. Ouais. Je pensais que c'était les os. Oui, c'est vrai.
Et ça vous a fait peur?
Oui.
Bah, rendez-vous compte, perdre des os.
Bah, oui, tu perds le fémur, tout ça. Bon. Ouais.
C'est très typique d'une époque.
Non, disait, les os, ça fait éclater les os, imaginez-vous. On n'a pas envie d'être enceinte à ce moment-là. Non.
C'est-à-dire que même les femmes étaient ignorantes de la façon dont on faisait les enfants, en fait.
Mais les femmes, là, je suis une petite fille, là, moi, là. Je ne suis pas une,
17 ans,
suis pas une femme.
Vous n'êtes pas censé savoir à 17 ans?
Non, non, mais à 17 ans, je savais déjà. Mais jusqu'à. À 14 ans, j'étais très naïve, moi. Et puis, en plus, j'étais mystique. Moi, j'étais connectée avec...
Très pieuse.
Ouais, ouais, avec Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte qui lévitait. Moi, je voulais léviter comme elle, tu sais. Quand elle parlait au bon Dieu, elle montait. Ben, moi, ça m'est arrivé après, mais c'était pas le bon Dieu.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël qui regarde. Ben H, Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini, notre invité Denise Bombardier veut nous parler de ses mémoires, Une vie sans peur et sans regret qui vient de sortir aux éditions Plon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël qui regarde Ben H. Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini et notre invitée, la romancière, journaliste, animatrice Denise Bombardier, venue parler de son livre Une vie sans peur et sans regret. Alors Denise Bombardier, vous avez vécu la cause des femmes de près, vous avez été une seule femme journaliste politique, il y a eu des progrès, mais c'est très long encore. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du mouvement MeToo? Est-ce que vous pensez que...
Bah, le mouvement MeToo, ça a changé bien des choses et en même temps, ça ne change pas beaucoup. C'est-à-dire que... pour que les choses puissent changer, il faut que les tribunaux soient à la hauteur des demandes des femmes. Mais c'est pas ça. Sur 100 femmes qui dénoncent un homme pour agression sexuelle au Canada, il y en a que 2 qui réussissent à aller en procès. Mais c'est pas parce que la c'est pas seulement parce que la justice est misogyne. C'est pas ça. C'est que pour faire un procès, il faut que les avocats se disent on peut le gagner. Il faut que le procureur de ce que vous appelez le procureur de la République, donc procureur de la défense chez nous, il faut qu'il puisse croire qu'il va gagner. Mais et c'est compliqué de faire la preuve.
Mais indépendamment de cette histoire de justice, Denise Bombardier, est-ce que vous constatez un changement des mentalités, des comportements ?
Parce que
vous avez été victime de machisme au début de votre carrière, vraiment ?
Évidemment. De toute façon, j'étais jeune, à 12-13 ans, j'étais agressée sexuellement par un réalisateur à Radio-Canada qui ne faisait que des émissions pour enfants. Ça, c'est sûr que ça m'a marquée pour la vie.
Vous ne tolérez pas ça ? Jamais ?
Et moi, je l'ai raconté dans mon livre, là, et c'était la première fois que je le racontais.
Cette histoire d'agression
sexuelle.
Mais
moi, j'ai essayé. J'allais à Radio-Canada travailler dans ces dossiers parce qu'il avait demandé à ma mère de me faire venir pour travailler dans ces dossiers l'été. Je ne savais pas ce que c'était que le dossier à l'époque. Ce n'était pas la définition que je me donnais du dossier, moi. Et alors donc, et je suis allée, et au bout de 2-3 fois, et ben voilà, c'est ça qui s'est passé. Je suis revenue, j'ai dit à maman... « Maman, je ne veux plus y aller à Radio-Canada » parce qu'il avait promis de me confier une émission à l'automne à Radio-Canada. Et ma mère était très, très fière de ça, que j'ai une émission à Radio-Canada. Comme enfant, là, c'était un magazine pour enfants. Elle m'a dit « Mais voyons donc, il faut que tu ailles. » J'ai dit « Je ne veux pas y aller. » Bon, j'y retourne. Bon, ça continue. Je reviens, je lui dis « Maman, je ne veux plus y aller. » Elle m'a dit, mais tu vas perdre ton émission, il va t'enlever ton émission. Mais t'es pas capable de dire ça à ta mère quand t'as 12 ans. Mais même aujourd'hui, les enfants ne le font pas. C'est compliqué. C'est traumatisant.
Cet homme, il n'est jamais rien arrivé alors. Personne n'a jamais...
Personne, il est mort. Personne. Et donc, j'en parle dans le livre. Et je voyais les mères, ils faisaient les émissions le samedi. Hein? Et avec les enfants, je voyais les mères aller porter les petites filles avec des petites robes courtes, puis ils les prenaient toutes par la taille et tout. C'était dans le silence et dans l'aveuglement des adultes qui étaient autour. Alors j'ai une attitude très particulière, moi, vis-à-vis... c'est sûr que j'en ai voulu à ma mère pour ça. Et j'ai réglé mon problème toute seule. J'ai demandé à ma petite amie qui avait le même âge que moi, Felicia, que je vois encore. D'ailleurs, je l'ai vue encore Elle est venue me voir en Floride il y a un mois, là. J'ai dit à Felicia, est-ce que tu peux venir avec moi à Radio-Canada? Elle aurait voulu avoir l'émission que j'allais avoir, parce qu'elle était aussi chez Mme Audet, elle prenait des cours de diction et tout. Elle ne m'a pas posé une question. Elle est venue avec moi. Bon, on est retourné, et au bout de 2 fois, il a dit, j'ai plus besoin de toi, m'a-t-il dit. Mais j'ai quand même eu mon émission à l'automne. De toute façon, je l'ai eu parce que j'étais la seule enfant qui pouvait lire des textes de radio. À ce moment-là, ça fallait quand même... J'avais beaucoup de textes à lire. Et moi, j'étais... Parce que j'étais la meilleure, quoi. Il pouvait pas... Il n'y avait personne d'autre. Alors, mais là, j'ai jamais été seule en sa présence. Et j'ai encore dit à Felicia, il y a un mois, Felicia, es-tu capable dans ta mémoire de retourner en arrière, de me dire pourquoi tu ne m'as pas demandé? Pourquoi je voulais t'amener avec moi? Elle m'a dit, écoute, si tu me le disais, à ce moment-là, je me suis dit, Denise, elle veut que j'aille. Elle a besoin de moi. Elle n'a pas posé de questions. Comment ça se fait que ma mère n'a pas fait ça? Elle est morte, ma mère, maintenant. Je peux vous parler comme ça. Il y a une sorte de... C'est terrible, le silence et la complicité... Des adultes dans les cas d'agression sexuelle des enfants. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais je dis, on ne veut pas voir, c'est trop terrible, j'imagine aussi. Et quand j'ai dit à ma mère, finalement, il y a quelques temps avant qu'elle meure, elle est morte en 1999, j'ai dit, maman, mais sais-tu ce qui se passait? Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Mais je ne pouvais pas le dire à cet âge-là. Hein? J'ai dit, mais parce que je ne pouvais pas. Voilà. Alors, c'est très, très ambigu et ambivalent. On peut dénoncer, mais il y a des femmes qui dénoncent et après, elles changent leur témoignage et tout. Et ce qui fait que c'est bien la dénonciation. Mais en même temps, au Québec, vous savez, les femmes, elles sont c'est, le féminisme est très particulier et c'est rendu, il y a des dérives. Hein? Moi, j'ai une nièce qui m'explique que si un homme lui met la main sur l'épaule puis qu'elle n'a pas accepté qu'il lui mette la main sur... Mais vous savez, il peut arriver comme ça à dire « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Mais écoute, t'es bien trop intelligent, ça n'a pas de sens. T'es capable de te défendre en plus. Elle a fait Sciences Po à Paris. Elle est de... c'est une femme de carrière. » Elle m'a dit « Non. » Elle dit « À la limite, je pourrais me promener toute nue dans la rue. Il ne faudrait pas qu'un homme me touche. Ils n'ont pas d'affaires. » Mais vous voyez un peu, il y a cette espèce de... Il y a cette espèce d'idée que le corps n'est pas de la femme n'est pas sexué. Et c'est nier aussi, quand même, la connaissance de la pulsion sexuelle des hommes aussi. Donc,
et de Ben H.
Ouais, moi, je dis, méfiez-vous. Il faut se méfier.
Hein? Se méfier des hommes.
Il faut se méfier, il faut se mettre... Enfin, il faut se protéger. Appelons ça, on va se protéger. Voilà.
Mais pas de moi.
Je vous présente Ben H. Oh là là. Il n'y a oh là pas là besoin là. De se oui. protéger non, de Ben bah H. Non. Denise Bombardier, il a des choses à vous dire.
Oui, Denise Bombardier, enchanté. Ben H, chroniqueur littéraire. ce midi, l'amoureux des mots que je suis ravi d'être face à une consoeur, finalement. Denise Bombardier, vous nous venez du Québec. Vous êtes la preuve que le Québec, ce n'est pas que Garou et Natacha Saint-Pierre. Non, c'est aussi des intellectuels, des hommes et des femmes comme vous qui donnent de la voix en disant des choses très justes plutôt qu'en chantant des trucs trop forts. Journaliste, romancière, animatrice télé, le tout sur deux continents, le Canada et la France, qui explique pas mal de choses, hein. Avec un pied à Paris et l'autre à Montréal, tu m'étonnes que les Anglais ne voient jamais le soleil. Québécoise de naissance, vous êtes amoureuse de la France, pays de vos ancêtres et surtout de votre littérature d'enfant. Pour vous, la France, c'est un fantasme, hein. C'était Charles de Gaulle, Diderot ou Flaubert, hein. C'est ça ce qu'on appelle le rayonnement de la France. Et ce rayonnement, bah, c'est comme celui du soleil, il t'aveugle complètement. Du coup, tu viens pour de Gaulle, Diderot et Flaubert et tu arrives devant Macron, Zemmour et Hanouna. Surprise ! La France, vu de plus près, bah, c'est juste une moche qui se maquille hyper bien, quoi. Rouge à lèvres Molière, eyeliner Claude Monet, et pour le blush, j'hésite entre Victor Hugo et Jean de La Fontaine. Alors c'est bien joli tout ça, mais si tu grattes un peu derrière le make-up, la France en fait c'est les tuches. Et vous êtes restée amoureuse de Denise Bombardier malgré tout, non seulement de la France, mais aussi des Français. C'est vrai, qui aime les Français dans le monde ? Vous.
C'est vous. Vrai, on est moins nombreux, ça, c'est sûr.
C'est grâce à ces petites choses-là qu'en France, on dit souvent « Ah, ils sont sympas, les Québécois !» Mais Denise Bombardier, ce n'est pas que ça. Une femme de culture, une femme de lettres, une femme engagée qui a su faire avancer la cause de nombreuses femmes, bien sûr, mais c'est aussi la biographe de Céline Dion. Hein, car oui, messieurs les snobinards de tous bords, on peut être intellectuel et aimer Céline, si. Bref, une carrière riche, faite entre autres de télé, de livres et de rencontres avec les grands de ce monde, les grands, mais aussi les petits hommes, comme ce ministre québécois qui vous a dit un jour, vous êtes beaucoup trop intelligente pour être séduisante. Sachez que je pense exactement l'inverse. Hein, je ne couche jamais avec une femme tant qu'elle ne m'a pas battue au Trivial Poursuite. Et si à l'occasion de cette émission, je vous découvre, finalement, je le dis haut et fort, tant qu'il restera des hommes comme lui, le monde aura besoin de femmes comme vous. Merci de m'avoir.
Ah, merci beaucoup.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invitée Denise Bombardier venue nous parler de ses mémoires, une vie sans pleurs et sans regrets. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invitée Denise Bombardier venue nous parler de son livre. Une vie sans peur et sans regret. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de Céline Dion, vous avez consacré une biographie, vous avez beaucoup bien connu René Angélil, vous l'admiriez beaucoup d'ailleurs.
Ah oui, c'est plutôt un essai qu'une biographie, moi, que j'ai fait. Parce que, étant sociologue de formation, je trouvais que c'était le phénomène social un des plus spectaculaires qu'on a au Québec. Cette petite fille qui sort d'une famille pauvre, mais vraiment pauvre.
Comme la vôtre, hein,
la 14e, non.
Moi, plus pauvre que la vôtre.
Ah bah oui, à 14 enfants, elle accouchait. Quand elle est née, quand elle était bébé, sa mère est obligée de la mettre dans le tiroir de la commode. Il n'y avait pas de lit, je veux dire, les 14 enfants là. Elle était la 14e de 14 et qui a atteint les sommets de la gloire. Oui, c'est un phénomène très intéressant.
Et vous avez beaucoup d'admiration pour René Angélil, vous en parlez dans le livre.
Oui, c'était un prince, René Angélil. Oui, c'était un homme. Et j'ai même écrit dans cet essai que c'est parce que lui n'était pas québécois de souche qu'il a été capable de rêver pour Céline Dion la terre entière.
Christine Bérou a des questions à vous poser.
Oui. Bonjour Denis, je suis le moment ludique de l'émission. Pourquoi vous riez ? Alors dans votre biographie, il apparaît que vous êtes tout aussi...
Je reviendrai à Montréal.
Que...
Paris, tu nous ouvres ton
Du coup, j'ai trois petits quiz pour vous. Vous allez répondre très vite à une série de questions et on va voir si vous êtes plutôt France ou Canada. Alors, attention, c'est parti. Buvez un verre d'eau parce que ça va être du sport. Alors, vous êtes plutôt bordel de merde ou tabarnak ?
Ni un ni l'autre.
D'accord, parce que vous êtes une lady, alors vous dites pas de grossièreté. Non, ouais.
Parce que mon père a trop tabarnaké et j'ai entendu trop de grossièreté verbale dans mon enfance et ça a été une des...
On a tant à apprendre de voilà. Vous, Denise. Ah, là, là. Vous êtes plutôt Justin Trudeau ou Emmanuel Macron ?
Oh ben Emmanuel Macron, 100 fois, parce que 100 fois ou 1000 fois, il dirait pas que Socrate, c'est un restaurant grec à Montréal.
Ah oui, d'accord.
Oh, il en dit d'autres. Hein. Ouais. Oui,
vous êtes plutôt la feuille d'érable ou la feuille des impôts de prélèvement à la source ? Vous avez pas ça, vous, le prélèvement à la source ?
Bien sûr.
Si. Ah si, vous avez ça.
On a ça depuis toujours, on trouve que c'est merveilleux.
Ah oui. D'accord, très bien.
Je sais pas pourquoi vous posez des problèmes là-dessus.
Mais oui, ah, je
parce
sais
qu'on
pas
peut
pourquoi...
plus tricher.
Peut-être ça, oui.
Vous êtes plutôt l'école internationale du rire au Québec ou Sciences Po en France ? C'est un peu pareil.
Je serais plutôt Sciences Po en France.
Très bien. Alors, attention, deuxième quiz. Vous allez maintenant me répondre en France ou au Canada ? Alors, on y croise des ours. En France ou au Canada ?
En France.
On y croise des blaireaux.
En France.
Pour y non. aller, il faut traverser l'Atlantique. Il y a un piège.
Bah, ça dépend d'où tu pars.
Eh bah oui.
En France.
Tout le monde parle en même temps anglais et français. En France ou au Canada ?
En France, maintenant.
Ça vous énerve, ça ?
Genre, ça me rend folle.
Oui.
Sincèrement.
Oui.
Puis ça me scandalise. Très franchement, l'autre jour, j'ai une amie, je ne vous dirai pas quelle fonction elle occupe dans votre pays, parce que c'est une fonction très importante. Elle m'envoie un
ministre
truc.
Ministre de la francophonie.
Elle m'envoie un courriel et elle fait « Je te like ». J'ai répondu, mais « red sec ». J'ai dit « Non, si tu fais ça, je ne te vois pas ». C'est quoi ça, « je te like » ?
Ah ouais, c'est vachement has-been.
Bon, voilà, maintenant, j'ai une petite série de questions. La réponse est le titre de l'un de vos livres. J'ai travaillé votre bio. Alors, si vous n'aviez pas été ce que vous avez été, vous auriez voulu être la voix de la France ou l'énigmatique Céline Dion ?
La voix de la France.
Pour avoir la rage de réussir, il est nécessaire d'avoir une enfance à l'eau bénite ou le mal de l'âme ?
Les deux.
Que voudriez-vous offrir à nos auditeurs ? Le dictionnaire amoureux du Québec ou la lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde ?
Les deux.
Si vous deviez résumer tout ce que vous nous avez dit dans cette émission, vous diriez que ce sont les propos d'une moraliste ou un tremblement de cœur ?
Je dirais que c'est les propos d'une moraliste et le tremblement de cœur.
Vous nous avez parlé au risque de déplaire ou au contraire, vous voulez encore crier « aimez-moi les uns les autres ».
Aimez-moi les uns les autres, ça me convient encore.
À votre avis, nous les chroniqueurs, nous sommes pour Anne le jackpot ou la déroute des sexes ?
De votre génération, vous êtes plutôt dans la déroute des sexes.
Eh bien, ça fait plaisir. C'est la fin de ce quiz, vous avez envie de me dire « ne vous taisez plus » ou « ouf ».
J'ai envie de vous dire merci.
Je vous like.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Denise Bombardier, on a une tradition dans cette émission que chaque jour on fait une histoire et les invités la poursuivent. Elle a été démarrée hier lundi par Bernard Campan et Isabelle Carré. Vous allez écouter ce qu'ils ont fait. Il y a un mot imposé à piocher dans le chapeau.
Sans regret.
Sans regret, comme le titre de votre livre. On écoute l'histoire démarrée hier par Isabelle Carré et Bernard Campan.
C'était l'histoire d'une jeune femme qui disait à son amant « Quand je te respire...
Je prends pleine conscience du sens de ce mot, dégustation. »
Et quand je ne te goûte pas, c'est sans regret.
Merci Denise Bombardier d'être passée nous voir. On rappelle votre livre de mémoire « Une vie sans peur et sans regret » qui vient de sortir aux éditions Plon. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.